BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h passées 2 minutes, on débute cette deuxième heure de BFM Patrimoine en jetant un œil sur l'actualité économique avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younsi.
Emmanuel Macron reçu en ce moment même pour un entretien en tête-à-tête avec Xi Jinping pour la deuxième journée de sa visite d'État en Chine. Le chef de l'État dit compter sur Pékin pour lancer des négociations avec Moscou sur la guerre en Ukraine. C'est l'un des enjeux d'ailleurs de ce déplacement réalisé avec Ursula von der Leyen. Pékin qui montre les dents après l'entretien entre la présidente de Taïwan et le speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis. Tsai Ing-wen a salué le soutien indéfectible de Washington à Taïwan. En réponse, la Chine a envoyé aujourd'hui des navires de guerre près de Taïwan, peu après avoir déployé un porte-avions. Et Pékin promet aujourd'hui une réponse ferme et énergique. En France, peu de perturbations dans les transports pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elles sont limitées au TER avec un train sur deux en circulation, 3/4 pour les TGV, à la RATP, trafic quasi normal. Hier, la réunion entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux n'a rien donné. Chacun campe sur ses positions et pas question pour les syndicats d'avancer sur d'autres sujets tant que la réforme n'est pas retirée. Également dans l'actualité, cette bonne nouvelle pour l'Allemagne, la production industrielle progresse plus que prévu en février, plus 2% sur un mois, largement portée par l'automobile, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral d'Helsaltis. L'automobile qui est moins impactée en Allemagne par les problèmes d'approvisionnement qui ont plombé sa croissance l'an dernier. Pas de bonus ni de prime pour les hauts dirigeants de Crédit Suisse. Le gouvernement suisse vient de les supprimer. Cela concerne les sommes dues jusqu'à la fin de l'année 2022. Ça représente 50 à 60 millions de francs suisses. C'est une exigence en compensation des aides publiques qui ont été versées pour le sauvetage de la banque. La voiture à hydrogène du français Opium va-t-elle voir le jour? Ce matin, la start-up annonce qu'elle va en priorité se concentrer sur sa pile à combustible qui promet des revenus à court terme. Quant à la voiture, la Machina, présentée comme la Tesla à hydrogène française, le premier prototype est attendu pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine. En tout cas, les finances de la jeune pousse sont tendues et son cours de bourse s'est effondré depuis fin 2022. Boeing reprend les livraisons des 767, ces avions gros porteurs de taille moyenne, après une pause de 3 mois. Une pause qui avait été provoquée par la découverte d'un défaut de fabrication sur les réservoirs d'un des fournisseurs. Et on termine avec Total Energy qui élargit pour le moment le blocage des prix à 1,99€ par litre d'essence. Cette mesure va également s'appliquer à la gamme Premium, Excellium, jusqu'à ce que les stations-service ne connaissent plus de difficultés d'approvisionnement.
Merci beaucoup Faiza Younsi qui nous accompagne chaque heure pour lire cette actualité économique. Nous tout de suite, on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Antoine Larrigauderie qui nous accompagne ce matin. On vous retrouve Antoine depuis cette salle de contrôle du CAC pour une séance qui manque un petit peu de conviction.
Oui, on va dire ça comme ça. En même temps, on s'en sort pas si mal, hein, parce que du côté de la conjoncture de marché et de ce qui traîne sur les tables de marché, franchement, un gain de 0,27%, on va dire que c'est inespéré. 7335 points. On est toujours très très près de nos plus hauts historiques, hein, à peine 70 points. Et du côté des autres places européennes, ça se passe plutôt pas mal aussi, avec un Eurostock 50 qui gagne à 0,19% et plus 0,24% pour le DAX à Francfort. Une tendance pas très affirmée. Pourquoi? Déjà parce que on est à la veille de 4 jours de très longs week-ends boursier de Pâques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu et le vendredi saint et le lundi de Pâques. Et donc, du coup, il n'y aura pas de bourse pendant 4 jours. Ça va peut-être avoir le mérite de refroidir un peu les esprits parce que du côté de Wall Street, hier soir, on se faisait quand même énormément de soucis pour l'économie américaine. On a eu un amoncellement de statistiques extrêmement mauvaises, que ce soit les ISM qui étaient largement en dessous des attentes, que ce soit les prévisions de croissance de la Fed d'Atlanta, qui est la plus pointue, hein, sur les perspectives de croissance américaine, très largement revues à la baisse, hein, pour le premier trimestre. Bank of America qui prévoit même que l'inflation risque de tomber comme une pierre dans les prochains mois. Les mots de récession, les mots de hard landing refont leur apparition dans le discours de marché, hein, en tout cas du côté des marchés américains. Et parallèlement, on a une zone euro qui se porte bien. Vous l'avez entendu avec Faiza, production industrielle allemande largement supérieure aux attentes, beaucoup de robustesse. On a eu les commandes aux usines aussi cette semaine qui étaient supérieures aux attentes. Bref, ça ça se passe bien. Donc du coup, sur le marché obligataire, on a une correction très très nette des taux à 10 ans américains, alors que les taux européens, eux, restent fermes. Et ça nous donne une Europe boursière particulièrement attractive. Donc c'est pour ça qu'on surperforme et qu'on s'en tire pas trop mal. Avec Unibail Rodamco Westfield, une valeur très réactive au taux, hein, justement, qui reprend du terrain. Plus 2% ce matin, on est à 49,42€, c'est la plus forte hausse du CAC. Vinci plus 1,6 à 107,34€. On a Thalès aussi, plus 1,9% à 139,25€. Le secteur bancaire poursuit son redressement avec notamment BNP Paribas qui gagne 1,6% à 56,74€. Et Total Energy, le poids lourd, gagne 1,5% à 59,01€. En revanche, correction marquée et unanime autour du secteur du luxe. Raffermissement des taux d'intérêt, plus tentation de la prise de profit, évidemment. Kering perd 1,9% à 554,60€. On a L'Oréal, moins 1,6% à 416,90€. LVMH, moins 1 à 835,90€. Mention spéciale pour Accor qui gagne 4,1% à 29,98€. Le CAC, plus 0,26, on est à 7 335 points. Et l'euro, 1,0905, Cédric.
Merci beaucoup, Antoine Larigauderi, ce matin depuis le siège d'Euronext à La Défense. Tout de suite, c'est l'œil du stratège.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
L'œil ce matin de Sébastien Barbe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Montpensier Finance. Bon, alors effectivement, ce matin, on l'entend avec Antoine, ça manque un peu de conviction, etc. Mais il faut quand même pas oublier qu'on est à la veille du week-end pascal, 4 jours où les marchés seront fermés. Et pourtant, il y aura des statistiques importantes, notamment aux États-Unis. Et donc, c'est probablement logique de voir un petit peu d'attentisme. Malgré tout, on est dans le vert, on est à quelques dizaines de points tout juste de nos plus hauts absolus, c'est-à-dire que la correction est terminée ?
Ah, bah alors, sacrée question, parce que de quelle correction on parle, Cédric ? Si c'est la correction récente sur les marchés européens, je ne sais pas si elle est terminée, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est effacée. Si on regarde les marchés avec un peu plus de recul, si on regarde, on a tous en tête que l'année 2022 a été compliquée, alors... C'est moins vrai sur les actifs européens qui ont repris des couleurs. Mais enfin, le Nasdaq a quand même est encore un quart en dessous de son plus haut historique.
Même s'il est reparti dans ce qu'on appelle un bull market, parce qu'il a repris depuis ses plus bas. Enfin, voilà.
On va en reparler. Et si on regarde, vous parliez tout à l'heure sur l'antenne du marché immobilier, est-ce qu'il a commencé sa correction ? Là aussi, la question est ouverte. Donc, des corrections, on a plusieurs.
Malgré tout, ces questions bancaires qui ont un petit peu fait gamberger tous les opérateurs depuis une quinzaine de jours. Cette question d'un potentiel problème bancaire, elle est en fait derrière nous. On se dit que c'est effectivement quelques banques régionales, on va dire, aux États-Unis. On va pas négliger leur importance dans le crédit, etc. Mais voilà, c'est bien circonscrit.
Ah non, je crois pas. Je crois qu'il faut vraiment décomposer ce que vous appelez comme problème bancaire en trois problèmes différents. Le premier problème, c'est le problème de gestion actif passif, comme on dit. C'est ce qui avait fait sauter SVB lors du week-end, du premier week-end qui a surpris beaucoup de gens, en réalité. On va dire qu'on a soigné, les banques centrales sont arrivées très vite pour soigner finalement ce problème de liquidité en injectant des liquidités. Mais c'est un petit peu comme si, on avait soigné une crise cardiaque avec un remède qui est je te passe des liquidités, sauf que le coût de la liquidité est à 5% aux États-Unis, comme vous le savez. Et donc, si je suis banquier, que j'ai dans mon book des actifs qui me rapportent du 2 ou 3% et que me soigne avec du 5, je perds un petit peu tous les jours. Donc ça veut dire que on a transformé le problème d'un coup en un problème un petit peu plus larvé, plus durable, qui va durer justement et qui va finalement entraîner l'ensemble du système bancaire à faire attention à ses dépôts et à réduire sa production de crédit. Donc ça va se diffuser dans le temps. Ça, c'est le premier problème. Après, il y a un deuxième problème qui est le problème de la solvabilité. C'est celui qui fait le plus peur, finalement. Parce que le problème de solvabilité, c'est qu'est-ce que j'ai dans mes actifs ? Si j'ai des treasuries, les taux ont rebaissé. Donc,
on va dire la liquidité, c'est un problème de tuyauterie, alors que la solvabilité, c'est une question de confiance.
Et puis, c'est un problème de fonds propres. Ouais. C'est un vrai problème de solidité. Si j'ai des treasuries, le prix des treasuries a quand même rebondi depuis le début de ces découvertes. Donc, je vais déjà un peu mieux. Mais si j'ai, et on le sait tous maintenant, un grand nombre de prêts dans des secteurs qui vont quand même être durablement compliqués, que sont l'immobilier non résidentiel, que sont le financement des LBO et choses comme ça, eh ben, il va falloir bien réfléchir à où sont les risques, qui porte les risques, et de temps en temps, j'aurai quand même des sujets. Ça aussi, ça va entraîner probablement une sélection de la part des banquiers sur ce qu'ils vont vouloir refinancer, et probablement plus cher et avec moins de risques. Donc ça va être quelque chose de durable. Et donc je dirais que le problème des banques, c'est finalement rapidement un problème qui se diffuse à l'économie, c'est le problème des autres.
Donc il y a un problème bancaire qui débouche éventuellement sur une crise financière ?
Alors, il y a un sujet bancaire qui se traduit, je pense, dans toutes les banques par on fait attention à nos dépôts et on restreint la production de crédit, que ce soit aux entreprises ou aux ménages. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'on va, enfin, les banquiers vont choisir à qui ils vont prêter plus cher. J'entendais que les prix immobiliers allaient continuer à remonter, alors qu'on pourrait dire, finalement, les taux ont rebaissé, donc ils devraient reprendre le chemin de la baisse. Ce sera pas le cas, et donc ça va se diffuser dans l'économie sur tout un nombre d'acteurs qui dépendaient justement de cette structure de financement, et tout un tas d'acteurs qui dépendent beaucoup moins du financement vont à la fois bénéficier d'un marché de taux plus sympathique. Et puis finalement, de problèmes qui sont plutôt chez les autres que chez eux. Donc je dirais que le problème bancaire, c'est plutôt trois choses différentes.
Mais on voit quand même tous les délais qui se sont raccourcis. Enfin, je veux dire, voilà, si on fantasme et qu'on revient aux crises précédentes, on se souvient qu'entre Bear Stearns et Lehman, il y avait eu tel délai, etc. Et là, finalement, 13 BB, Crédit Suisse, tout ça, c'est un peu condensé. Est-ce que ça veut dire que qu'il y a une forme de crise financière, ou là encore, ne nous trompons pas de mots et ne jouons pas à nous faire peur?
Alors, je dirais les choses un tout petit peu différemment. C'est-à-dire que la politique monétaire, ça a commencé à se restreindre depuis longtemps. Et simplement, on a découvert avec ASVB, finalement, l'impact de cette restriction de liquidité qui, dans nos interviews précédentes, Cédric, était finalement, les banquiers centrés remontent les taux, puis finalement, il se passe pas grand-chose. Et en fait, on a découvert que d'un coup, finalement, ça commence à piquer. Donc, ça arrive avec ASVB. Le week-end suivant, c'est sûr que Crédit Suisse, c'est des problèmes différents, mais on a tendance à dire que c'est un petit peu la même chose. Et on a failli avoir peur encore le week-end suivant avec d'autres banques en Europe, comme vous le savez.
Ouais. Et finalement, la finance s'en sort indemne, parce que on est quasiment au plus haut sur le CAC. Le Nasdaq est de nouveau en bull market. Le SPI, finalement, dans la tempête, sur la période, il n'avait perdu qu'un pour cent. La finance s'en sort toujours indemne ?
La finance, ça veut dire quoi, la finance? La finance, c'est plein de choses. Si on parle de certains indices, oui, on est revenu au plus haut. C'est pas le cas de tous les indices. Si on regarde le portefeuille d'un institutionnel ou le portefeuille d'un particulier, c'est pas du tout évident qu'on soit sur des plus hauts, parce que le marché obligataire a corrigé. Le Nasdaq, comme vous le disiez, Cédric, a perdu un quart de sa valeur, même s'il a remonté par rapport à ses points bas. Sur les marchés émergents, quand on regarde les deux, avec l'impact des devises, on est quand même à presque moins 30 quand même, par rapport au plus haut. Donc globalement, les marchés ne sont pas tous au plus haut. C'est vrai qu'on a l'illusion du CAC 40 qui flirte avec ses plus hauts encore ce matin.
Ouais. Donc, il y a ces problèmes qui sont là, et malgré tout, on voit nos banquiers centraux qui re-regardent les stats. On attend l'emploi américain demain et on se dit effectivement que ça peut jouer. Ça veut dire que tout le monde revient finalement sur ses axiomes de base, sur cette lutte contre l'inflation, sur...
Pour le coup, on a deux situations contrastées, je crois. On a finalement une situation aux États-Unis pour la Banque centrale qui est assez facile à gérer, je trouve, puisque on va avoir maintenant des chiffres d'inflation qui vont vraiment, vraiment baisser.
D'accord.
On a encore vu quelques publications hier, notamment dans l'ISM, prix payé, où là, si vous regardez la courbe, c'est en baisse très sensible. Donc, on va avoir dans les mois qui viennent une inflation qui baisse de manière naturelle et assez rapide. Donc, ce sera quand même assez facile pour la Fed de pouvoir avoir un discours. On a peut-être vu le pic de la hausse des taux, et en tout cas de pouvoir avoir un discours de beaucoup plus accommodant, et puis rebaisser les taux, puisque si je reviens sur le problème d'avant, qui est à mon avis celui qui interpelle le plus la Fed, qui est le financement du système bancaire, il va bien falloir à un moment donné rebaisser les taux pour que le coût de financement se rapproche du coût de ce qu'on a dans les boucles. Donc les marchés anticipent 100 points de base de baisse des taux sur un an.
Ouais.
Je suis pas certain qu'ils se trompent. de ce point de vue-là.
Ouais, sauf qu'au même moment, on a par exemple l'OPEP+, qui décide de limiter sa production pour maintenir ses prix, ce qui aura un impact sur les hausses de prix, non, sur l'inflation. Alors,
à la limite, je reviens à cette question après, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même l'Europe et le sujet de la BCE. Le sujet de la BCE est beaucoup plus complexe à gérer. Je prends deux pays frappants dans la zone euro. Mm-hmm. Quand on regarde le Pays-Bas, par exemple, les Pays-Bas, ils ont laissé filer l'inflation qui est montée à 17% en glissement annuel. Et puis évidemment, maintenant, on est dans la deuxième phase où le prix du pétrole a somme toute bien rebaissé, le prix du gaz, etc. Et on a une inflation aux Pays-Bas qui n'est plus que de 4,5% en glissement annuel et qui peut-être va arriver en territoire négatif. Et si on prend notre pays, la France, comme nous, on a empêché les prix de monter, forcément, c'est plus difficile de les faire redescendre derrière. Donc, on sent bien qu'on culmine à 5, 6, 6,5 d'inflation et ça va être difficile de leur faire rebaisser. Et donc, quand vous êtes la BCE, il y a quand même un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de gouvernance en soi, puisqu'il y a quand même les représentants de chaque pays. Donc, chaque pays a une situation particulière. Donc, on a beau réfléchir ensemble, chacun ouais. influence dans un sens ou dans l'autre. Et voilà, vous le savez, on l'a largement commenté. Et puis, une situation matérielle qui est que, l'inflation en Europe, elle n'est pas encore sur des pentes extrêmement descendantes. Et puis après, il y a la question, effectivement, du pétrole. Alors, le pétrole, effectivement, on a eu cette nouvelle de la...
En tout cas, les Amériques, Washington a dit, ça ne tombe pas du tout au bon moment.
Bah oui, ça tombe pas du tout au bon moment parce que je pense que les États-Unis, ils le disent pas, mais ils avaient surtout besoin de reconstituer les stocks stratégiques dans lesquels ils avaient largement puisé dans le passé quand le pétrole était trop important à leurs yeux, justement quand il y avait trop d'inflation. Donc, je pense pas que ce soit une question d'inflation, mais simplement ce serait bien de reconstituer les stocks à des prix plus sympas. Parce que finalement, la nouvelle du pétrole, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, c'est une mauvaise nouvelle, Cédric, pour faire votre plein d'essence avant votre week-end pascal de 4 jours. C'est une mauvaise nouvelle pour les stocks stratégiques. Mais fondamentalement, il y a plutôt une corrélation positive entre la hausse du pétrole et la hausse des bourses.
D'accord.
Déjà parce qu'il y a des valeurs qui profitent de la hausse du pétrole, bien sûr, dans la bourse. Mais globalement, c'est plutôt un signal positif sur le fonctionnement de l'économie. Moi, j'y vois presque une mauvaise nouvelle dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas encore assez. Faiza a dit tout à l'heure que les chiffres hier étaient pas très bons. Mais on sent bien qu'il y a, il y a quand même des vraies questions sur le cycle économique qui se posent. Peut-être que l'OPEP, qui se sent plus indépendante maintenant qu'il y a le bloc chinois qui est en train de se constituer, se dit juste, avec ce qui arrive devant nous en termes de cycle...
Je gère mes prix, quoi.
Eh bien, je baisse un peu mes prix et puis pour essayer de maintenir un prix du pétrole assez haut.
Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien Barbe et Montpensier Finance qui nous accompagnaient ce matin dans l'œil du stratège. À très bientôt.
Merci, Cédric.
Le marché, il progresse de 0,26%, 7334 points.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h31, on entame cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine et comme chaque demi-heure, elle commence par un détour sur les marchés. C'est Perceval Finance Conseil et Mathieu Cérone qui nous accompagnent ce matin. Merci de suivre les tribulations du marché qui hésite un petit peu. On est à la veille d'un très long week-end, 4 jours avec des chiffres importants demain de l'emploi américain et nécessairement ça entraîne à un peu de prudence. C'est ce que vous constatez sur le marché, Mathieu ?
Oui, tout à fait. Beaucoup de prudence qui est assez logique à la veille de ce week-end prolongé et à la veille des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Des valeurs du luxe qui pèsent un petit peu sur la tendance. C'est ce qui explique la divergence entre le DAX. Le DAX est sur une hausse de 0,30% et le CAC en est proche de l'équilibre puisque les valeurs du luxe, comme je le disais tout à l'heure, sont toujours en baisse entre 0,5% et 2%. 2% étant la variation de Kering. Nous, dans ce contexte-là, on fait pas grand-chose puisque l'amplitude entre les extrêmes du jour est de 0,40%. Donc c'est extrêmement faible. On essaye toujours plutôt de travailler à l'achat. Et d'ailleurs, on se rapproche du niveau support assez proche, la zone des 7310-15, pour viser de petites variations, dans la mesure où c'est ce que le marché nous offre, des variations de 0,3-0,5%. Donc si on arrive à acheter sur 7310-15, ça sera pour viser la zone des 7345-50, le niveau sous lequel on a buté ce matin. Un petit cran en dessous, on a un support à 7270-75, mais c'est toujours pareil. Il faudra voir en fonction de l'heure, parce que bon, si on y va, on va dire en début d'après-midi, ça va et ce niveau-là reste jouable. Mais si c'est en fin de séance, il faudra être davantage méfiant, dans la mesure où en l'absence de conviction, eh bien, les considérations techniques sont prépondérantes. Donc il ne faut pas se retrouver à acheter en fin de journée, alors que beaucoup sont en train un peu de liquider des positions à l'approche du week-end. Donc il faudra faire attention. Nous, on considère que le premier niveau, on va dire, d'alerte assez sérieux, c'est 7170. Donc tant qu'on est au-dessus, on va considérer qu'on a un biais haussier, mais quid du potentiel? Quand on voit que sur bon nombre d'indices, on est sur des niveaux de résistance assez importants, les 7004 sur le CAC, qu'est-ce qui peut amener un relais, comme on le disait tout à l'heure, d'autant plus que la situation économique se tend un petit peu partout. Donc on peut s'attendre peut-être à une phase encore de dérive. Le marché fait beaucoup ça ces derniers temps, des phases de dérive. On a quelques jours d'accélération, d'extension, que ça soit dans un sens ou dans un autre, et puis après de longues phases de latéralisation. On est dans cette phase là je pense, où on peut rester peut-être entre 7000 et 7004 pendant un certain temps. Vous voyez des bornes assez larges au gré de la spéculation, et une spéculation qui est très présente en revanche sur les petites valeurs. Donc ça montre bien aussi, bon, le moral reste correct, mais beaucoup de méfiance, parce que bon, sur les valeurs, on va dire les grosses capitalisations, notamment les valeurs du CAC, les variations sont assez régulières, mais en revanche il y a des jouets spéculatifs qui bougent assez fortement.
Merci beaucoup pour cette lecture. Mathieu Céron, donc, Perceval Finance Conseil, qui nous accompagnait ce matin. Et puis on vous rappelle que c'est la dernière séance de la semaine, puisque ce sera ensuite le très long week-end pascal, avec des marchés fermés et vendredi et lundi. Mais et vendredi et lundi, BFM Patrimoine reste sur le pont. On vous accompagne avec Julie Cohen-Horton pour un best-of de BFM Patrimoine. Merci Mathieu. Bonne fin de séance et de semaine. Donc bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à lire graphiquement cette séance parisienne. Le CAC étale 7316 points, et effectivement le luxe qui continue de peser, puisque L'Oréal, Hermès, Kering et LVMH trustent les quatre plus fortes baisses de cet indice CAC 40.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille ce matin Pierrick Corbel. Bonjour Pierrick.
Bonjour Cédric.
Vous êtes associé cofondateur de Venn Capital avec Dimitri Boimard. Vous avez donc créé cette boîte il y a près de 3 ans avec une idée bien précise que je vais essayer de résumer. Vous allez me dire si j'ai pas fait trop de raccourcis. Vous glissez entre la gestion active et la gestion passive, c'est bien ça ?
C'est exactement ça, Cédric, c'est bien résumé. Bon, d'abord, merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter Venn Capital. Alors, en quelques mots, en effet, c'est une structure que Dimitri Boimard et moi-même avons créée en 2019, avec pour objectif de créer des stratégies d'investissement action innovantes, qui sont uniques en Europe, et en effet, à la croisée des mondes de la gestion active et de la gestion passive.
On rappelle, la gestion active, généralement, c'est un gérant qui gamberge, qui fouille, etc., et qui crée une sélection de valeurs. Et la gestion passive, ce sont des algorithmes qui, en fait, reproduisent, en gros, tel ou tel sous-jacent.
Exactement, c'est exactement ça. Donc, pour donner quelques éléments de contexte, Dimitri et moi, on a eu des parcours très parallèles. On est passé par des grandes structures de gestion d'actifs, BNP, Rothschild pour Dimitri, Natixis, Sycomore Asset Management me concernant, puis des structures plus entrepreneuriales. Donc on vient vraiment de ce monde de la gestion active traditionnelle, et on est convaincu de son bien fondé. Néanmoins, comme beaucoup d'acteurs de l'industrie, on a fait le constat que l'approche était challengée, notamment le symptôme le plus évident, c'est la montée en puissance de cette gestion passive, et donc on a cherché une autre approche. Alors, souvent, le phénomène qui est mis en avant pour expliquer le fait que cette gestion active soit challengée, c'est le fait qu'il y ait des frais qui soient prohibitifs. Et donc ça vient expliquer le manque de génération d'alpha sur le long terme. Alors, c'est un argument qui est mathématiquement irréfutable, c'est-à-dire que plus vos frais sont élevés, moins la performance qui va être rendue à l'investisseur va être importante. Néanmoins, on pense que c'est une vision qui est réductrice, qu'il y a d'autres éléments. Et on pense notamment chez Venn qu'il y a un certain nombre d'éléments qui viennent expliquer le manque de génération, en tout cas la cyclicité de l'alpha sur le long terme, qui est liée à la présence naturelle de biais au sein d'une gestion active.
Qu'est-ce que c'est des biais? De quoi parle-t-on?
Ouais, alors, chez Venn, on a identifié deux grands types de biais. Il y a une première typologie qui est relativement bien identifiée dans le monde de l'investissement, ça va être les biais de style. C'est-à-dire qu'on va souvent parler d'un gérant croissance ou d'un gérant value. Bien sûr. Ces gérants vont donc avoir un style qui va être plus ou moins porteur en fonction de l'environnement de marché. Et donc, de facto, ce biais de style va amener une certaine cyclicité dans la génération d'alpha. Un bon exemple, c'est l'année 2022. On avait eu une décennie avant 2022 qui était très porteuse pour les gérants croissance, qui caracolaient en tête des classements. Et 2022, au contraire, ils ont eu des vents de face et donc ils se sont retrouvés à sous-performer massivement. Ça, c'est le premier biais, c'est le biais de style. Il y a un autre type de biais qui, pour le coup, est moins connu. Et c'est amusant parce que finalement, c'est un biais dont nous sommes tous porteurs de ce type de biais. Ça va être les biais cognitifs, les biais comportementaux.
C'est-à-dire
les biais qui sont liés au fait que nous sommes des êtres humains. En fait.
Notre côté un peu mouton de panurge.
C'est plus large que ça. Ouais. C'est plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de biais qui peuvent être identifiés. Alors, dans le domaine économique et financier, c'est une notion qui est encore assez peu démocratisée. Pour une raison simple, en fait, c'est que tout le corpus académique de la finance repose sur un postulat assez fort qui est de dire que les agents économiques ou les investisseurs sont rationnels, en fait. Il y a une nouvelle branche théorique qui a émergé depuis quelques décennies, c'est la finance comportementale, et qui vient justement mettre en lumière le fait qu'il y a des biais dans le comportement des investisseurs, que parfois nos jugements sont influencés par nos émotions, et donc on est loin d'être des homo economicus froidement rationnels, on est aussi des êtres émotionnels, et c'est tant mieux d'ailleurs. Donc c'est un courant de pensée qui est loin d'être anecdotique. Sur les 20 dernières années, il y a eu 3 prix Nobel d'économie qui ont été récompensés pour leurs travaux dans le domaine de la finance comportementale. Et pour donner des exemples concrets donc, de biais, il y en a énormément. Il y a un biais qui est assez connu, c'est le biais d'excès de confiance. C'est-à-dire que si vous interrogez un panel d'automobilistes, si vous leur demandez s'ils conduisent mieux que la moyenne, la grande majorité va vous répondre que oui, alors que statistiquement, c'est juste purement impossible. Oui. Et donc, nous, notre point, c'est de se dire que en appliquant cette idée dans le domaine de la gestion de portefeuille, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire que un gérant de portefeuille, aussi talentueux soit-il, reste un être humain. Donc, il est soumis à ce type de biais. Il peut faire des erreurs. Il y a des biais qui peuvent coûter très cher, par exemple, c'est le biais d'ancrage ou d'entêtement. C'est-à-dire qu'on va mettre du temps à reconnaître nos erreurs. Et typiquement, une position qui peut s'avérer être un mauvais investissement, finalement, on va mettre du temps à la couper.
Donc, le problème, entre guillemets, est mis sur la table. Mais comment on le traite? Comment on évite ces biais? C'est là où votre démarche est intéressante.
Exactement. Alors, donc chez Venn, en effet, on a la conviction que ces biais sont souvent à l'origine de phases de sous-performance plus ou moins durables. On a voulu développer une approche innovante qui capitalise néanmoins sur le bon sens de la gestion active, parce que c'est une démarche de bon sens à la base, sur l'alpha fondamental qu'elle peut générer, mais en essayant de lisser ce phénomène de biais. Et pour ce faire, on s'est appuyé sur un concept qui est particulièrement puissant, qui est le concept de l'intelligence collective.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette intelligence collective? Parce que vous êtes deux, donc effectivement, il y a...
Alors, c'est pas que nous, heureusement. C'est beaucoup plus large, on applique ce concept largement. Pour résumer simplement... L'idée de l'intelligence collective, c'est assez simple, c'est de dire que si vous prenez un groupe d'individus suffisamment large et diversifié, que vous les interrogez de façon indépendante, toute l'information, toute la sagesse qu'il peut y avoir dans ce panel d'individus va se cumuler, et au contraire, les biais vont se neutraliser, parce que finalement, on n'a pas tous les mêmes biais, et c'est heureux. Et donc, c'est un concept qui est pas nouveau, loin de là, qui est relativement ancien. Mais si on regarde ces applications modernes, notamment dans le domaine des technologies, il peut être utilisé. Par exemple, Wikipédia, c'est un exemple brillant d'utilisation du concept d'intelligence collective.
Concrètement, dans de la gestion, enfin, ou pratiquement, j'ai envie de dire, dans de la gestion, c'est-à-dire que vous procédez comment?
Alors... C'est sûr que dans le monde financier...
Faut quand même qu'il y ait des gérants pour qu'il y ait une foule, entre guillemets.
Exactement. Alors, dans le monde financier, pour les raisons que j'évoquais, c'est un concept qui est encore relativement peu démocratisé. Nous, l'idée sous-jacente à notre approche, c'est de se dire que si on a un bon gérant qui valide un cas d'investissement, certes, c'est déjà un signal qui est puissant, mais qui reste porteur juste de toute sa subjectivité, de tous les biais.
Et on peut avoir des biais.
On a des biais. Par contre, si on a un panel de gérants globalement large, diversifié, indépendant, qui valide même qu'un investissement, là, les raisons objectives à cela, elles vont plutôt avoir tendance à se cumuler, alors que toute la part de subjectivité, elle va être lissée. Alors, Pour un investissement action, par exemple, la subjectivité, ça peut être que vous appréciez ou non le produit ou service développé par la société, que vous ayez une certaine sympathie ou une antipathie pour le management. Bref, tout ça, c'est des raisons qui sont globalement subjectives, pas forcément très valables pour pousser le bouton de l'investissement sur le long terme, en fait.
Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez, entre guillemets, une idée d'investissement, vous la soumettez à un panel de gérants.
Non, alors c'est un peu différent. Concrètement, nous, on a développé donc des stratégies systématiques qui vont capitaliser sur les données publiques de gérants de portefeuille. Donc, en fait, on va identifier des gérants fondamentaux très talentueux et on va essayer d'extraire l'intelligence collective de ce panel de gérants.
D'accord.
En investissant sur des idées qui sont validées par plusieurs de ces experts. Donc, d'accord, c'est en ce sens, en fait, qu'on a construit une espèce d'indice de conviction de gérant, et c'est pourquoi on évoque une troisième voie entre la gestion active et la gestion passive.
Et ça donne de bons résultats ou...
Alors, ouais, merci pour la question, parce qu'on a parlé beaucoup de théorie jusqu'ici, mais dans le monde de
l'investissement, il faut que ce soit sonnant et trébuchant quand
même. C'est ça, dans le monde de l'investissement, l'épreuve du feu, ça reste la pratique. Donc, en pratique, on a lancé des fonds en partenariat avec Fédéral Finance Gestion, donc la filiale du Crédit Mutuel Arkéa. On a lancé deux fonds actions qui s'appuient sur nos stratégies, un fonds action américaine, un fonds action européenne. Les fonds ont été lancés fin 2019, donc on commence à avoir un peu d'historique. On a plus de 3 ans de track record et on est globalement assez content des résultats. Si on parle de performance, en termes de performance annualisée, les fonds ont délivré des performances respectives de un peu plus de 7% pour le fonds action américaine, un peu plus de 11% pour le fonds action européenne. Donc mention spéciale pour ce fonds en particulier, le fonds AIS Vensmart Alpha Europe, qui fait à peu près le double de la performance des marchés sur la période en question. Donc il se classe dans les tout meilleurs fonds européens.
Bon ben voilà, si vous hésitez entre gestion passive et gestion active, vous avez peut-être une troisième voie portée par Venn Capital, défendue ce matin par Pierrick Corbel. Merci d'être passé nous voir.
Merci Cédric.
Et on salue aussi Dimitri Boimard, donc, qui est votre associé dans cette aventure. Exactement. De Venn Capital. Le marché parisien, il est quasi sur son niveau de clôture d'hier soir, on hésite pas mal, 7322 points, on grignote 0,08%.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et on répond maintenant à toutes vos questions. C'est notre rendez-vous traditionnel avec aujourd'hui à la baguette Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Vous êtes prêt, Jean-François ?
Ouais, allez-y. Vu comment ça s'est fini tout à l'heure, je sais pas si ça va bien se passer.
Oh là 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 là, ne le prenez pas mal. Bon, beaucoup de questions, bien évidemment, mais vous vouliez faire une petite incise, notamment parce qu'on a une nouvelle qui est tombée hier, en provenance de l'AMF. C'est la nomination de Charles-Henri Dovigny, qui est un habitué du plateau aussi, qu'on retrouve régulièrement sur les questions d'épargne, et qui a été nommé au collège de l'autorité des marchés financiers. Et ça vous fait réagir?
Ouais, enfin, c'est pas que ça me fait réagir, c'est surtout que je trouvais que c'était l'occasion de faire passer et d'expliquer un certain nombre de choses aux épargnants qui nous écoutent, et d'essayer de leur montrer un peu une certaine cohérence sur la base de ce qu'on fait. Toutes les semaines, je viens en plateau avec, en début de séquence, un coup de gueule où j'ai tendance à m'énerver sur plein de sujets, notamment des sujets de place. Et je pense que on a un problème de place sur la place parisienne, qui est un problème de représentation des épargnants. Pourquoi ? Parce que les autorités, que ce soit le ministère de l'Économie et des Finances, que ce soit la Banque de France, que ce soit la CPR, le gendarme de la Bourse, que de l'assurance vie et de la banque, que ce soit l'AMF, prennent tout un tas de décisions qui ont une influence majeure sur l'argent de Choupinette, sans que finalement Choupinette ou les représentants de Choupinette ne soient intégrés à la table des négociations.
Alors, donc je voulais que Choupinette soit nommé à l'AMF.
Eh bien donc, en pratique, en tout cas, je constate ce dysfonctionnement. Et donc, constatant ce dysfonctionnement, on a mené une initiative. C'était l'été dernier, puisque l'été dernier, le mandat de Robert Ophèle, le patron de l'AMF, venait à échéance. Et si je dois faire un parallèle avec la situation syndicale, on a un peu fait une intersyndicale des gens qui pensaient à peu près comme ça. Et on avait pris la décision de présenter un candidat à la présidence de l'autorité des marchés financiers. Donc, on avait fait une communication publique. Le candidat, c'était Guillaume Prache, qui est délégué général de Better Finance. Et en pratique, donc il avait été auditionné comme les autres candidats. Il avait été présélectionné, donc il avait été dans la shortlist qui avait été remis au ministre. Et ça, pour nous, c'était super important, parce que quelque part, ça mettait le ministre de l'Économie et des Finances face à une décision politique. Est-ce que l'AMF, qui est une autorité qui a pour fonction première la protection de l'épargne, doit ou ne doit pas être dirigée par un représentant des épargnants ? Donc le ministre avait répondu non. puisqu'il avait choisi une autre candidate. Juste après, nous avions eu la démission avec fracas de Thierry Philipponin. Thierry Philipponin qui n'a pas démissionné sous l'argument de dire que les épargnants n'étaient pas représentés, mais Thierry Philipponin qui a démissionné sur l'argument de dire que l'AMF n'était plus indépendant. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait un poste qui était en train de se libérer au collège. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a continué à bosser pour tenter de faire bouger les choses dans le système. Et on a donc écrit au ministre pour lui présenter trois candidats. Et dans ces trois candidats, il y avait Charles-Henri Daubigny qui a la caractéristique d'être notamment le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Donc, réponse, aujourd'hui, l'information est tombée, l'arrêté a été publié le 5 avril, un arrêté du 31 mars qui annonce la nomination de Charles-Henri. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais disons-le très clairement, quand on part d'une candidature à la présidence de l'AMF et qu'on atterrit sur une nomination au collège, on se dit que c'est un bon début, mais que dans mon esprit, ça ne peut être qu'un début.
Donc il faudra qu'il y en ait d'autres.
Vous m'avez compris, le prochain renouvellement du collège, c'est en janvier 2024.
Bon, ben voilà. Les listes de candidats sont à présenter rapidement. Bon allez, on passe aux questions après cette petite incise. Question de Laurent, n'y a-t-il pas une possibilité pour le gouverneur de la Banque de France de toucher au livret A en mai ?
Si, il y en a une, mais en pratique, je vais vous dire, je pense qu'il ne l'utilisera pas. Et là encore, pardon, mais finalement, je vais rebondir sur le sujet précédent. Le gouverneur de la Banque de France, deux fois par an, au mois de janvier et au mois de juillet, il doit appliquer une formule de calcul pour savoir si pour connaître le nouveau taux du livret A et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire le LDDS et le LEP notamment. Donc, ça, c'est la règle. Deux dates, janvier et juillet. Et quand il applique la formule, le gouverneur de la Banque de France a la possibilité, dans ce cas-là, s'il y a application de la formule, personne ne peut rien dire, on applique la formule. En revanche, le gouverneur de la Banque de France peut déroger à la formule. Et vous savez, aujourd'hui, on est en pleine manif retraite, donc tout le monde est attaché à ce qui va se passer le 14 avril avec la décision du Conseil constitutionnel et tout le monde ne cesse de dire qu'on est dans un état de droit. Donc, regardons ce que nous dit le droit sur les marges de manœuvre du gouverneur. Et le droit nous dit quoi ? Le droit nous dit que le gouverneur peut déroger à la règle et il prévoit deux cas. Le premier cas, c'est des circonstances exceptionnelles, sans autre précision. Et le deuxième cas, c'est lorsque le taux défini conduit à ne pas protéger le pouvoir d'achat des épargnants. Donc, on voit bien, si je raisonne dans ma logique de représentation des épargnants telle que je vous l'évoquais tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la nomination de Charles-Henri Daubigny, le premier cas, la décision du gouverneur, elle peut être favorable ou défavorable aux épargnants. En revanche, dans le deuxième cas qui lui permet de déroger à la règle, c'est clairement écrit noir sur blanc dans les textes, ça doit être favorable aux épargnants. Que s'est-il passé au mois de janvier dernier ? Eh bien, au mois de janvier dernier, le gouverneur de la Banque de France applique la formule de calcul qui l'amène à 3,3% et il prend la décision de ne sortir qu'un taux de 3% pour le livret A, en prétextant des circonstances exceptionnelles. Donc, il utilise le premier moyen qu'il a à sa disposition.
D'accord.
Or, si on regarde en pratique, il n'y a pas de débat. Lorsque on se trouve lors de la prise de décision au mois de janvier dernier, les deux arguments sont valables. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les circonstances exceptionnelles, moyen numéro un, mais vous pouvez également utiliser le fait qu'on ne maintient pas le pouvoir d'achat des épargnants, donc la situation qui est favorable aux épargnants. Et en pratique, le gouverneur de la Banque de France, il fait un choix politique qui consiste à dire, finalement, les engagements envers les épargnants, c'est pas mon sujet principal, mon sujet principal, c'est l'environnement macroéconomique. Donc, partant de ce principe-là, ça c'est la lecture du gouverneur au mois de janvier. On est maintenant au mois d'avril, et au mois d'avril, il n'y a pas de système de révision systématique de calcul du taux, ouais. Il y a une possibilité si jamais le gouverneur le juge utile.
D'accord.
Naturellement, si cette possibilité elle est utilisée, ça sera en faveur des épargnants. Donc, je considère que le gouverneur a pris une décision au mois de janvier qui était défavorable aux épargnants. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, trois mois plus tard, on serait dans une situation qui est une situation favorable aux épargnants. Donc, en pratique, oui, il peut le faire. Deux, je n'y crois pas. Et je vais vous rajouter un troisième élément pour être clair et pour être très précis.
Allons-y.
J'aimerais pas être à sa place.
Ah.
Parce que je le critique gentiment. Mais, en fait, on se rend compte aujourd'hui, dans le monde de l'épargne, toutes les problématiques, finalement, auxquelles on est aujourd'hui confronté face à une situation que l'on n'a pas prévue. C'est une situation, la situation dans laquelle la violence de la remontée des taux d'intérêt est en pratique une situation qui n'a été anticipée par personne et qui pose des problématiques. On a vu depuis le début de l'année 20 milliards de collectes sur le livret A. Donc, on a eu aujourd'hui, et moi je m'étais planté dans mon analyse parce que je pensais que les taux des fonds en euros montraient moins que ça, mais le taux du fonds en euros, il est aujourd'hui en moyenne à 2%. Et on va être très clair, à 2%, il n'est pas compétitif par rapport à plein de placements, le livret A certes, mais également les comptes à terme et tout ça que proposent les établissements bancaires. Donc, en fait, vous avez aujourd'hui, alors qu'on est dans un environnement de remontée des taux d'intérêt, un risque que les gens sortent du fonds euro pour aller ailleurs. Et si on sort du fonds euro alors qu'on a des moins-values latentes, ça va poser problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on voit notamment sur des clientèles de gestion privée, etc., des assureurs qui font des bonus, qui font des offres en vous disant « on va vous garantir des taux à 3-3,5%, etc. » pour que l'argent ne sorte pas. Donc aujourd'hui, on va le dire très clairement, moi je pourrais aller en disant en termes de défense des épargnants, je considère qu'on est maltraité. Je peux également dire que la situation est aujourd'hui compliquée et quelque part, la crise bancaire nous arrange bien. Parce que la crise bancaire, elle a eu un effet, ça a entraîné une baisse des taux longs, une baisse des taux à moyen terme, et donc quelque part, ça diminue l'impression sur la surrémunération qu'obtenaient ces derniers temps les liquidités.
Allez, on passe à la question d'Alice qui vous a entendu tout à l'heure parler longuement du portefeuille marché gagnant, mais sans en donner la performance. Et elle dit, Jean-François Fillat n'en a pas dit un mot.
Et il y a Jean-François Fillat, avant de répondre à Alice, il va répondre à Cédric Decoeur sur la conclusion de tout à l'heure, genre vous votez et c'est Jean-François décide. Et pardon Cédric, mais je vais le faire. Je vais vous dire, je vais le faire de manière. J'ai écouté l'intervention de Pierrick Corbeil il y a de cela un instant et je vais le faire par rapport à ça. Je vais le faire par rapport à ça et je vais vous dire pourquoi. Pierrick nous a dit quoi tout à l'heure? Pierrick, il nous a dit que dans les caractéristiques des individus, c'est que dans ce qui générait la valeur ou ce qui ne générait pas la valeur, il y avait un certain nombre de biais.
Oui.
Or, la réalité des choses, et en fait, j'ai développé dans la méthodologie qu'on a mis sur le portefeuille de marché gagnant, en fait, on a dit la méthodologie, c'est marché gagnant qui l'a défini, et la sélection des valeurs, c'est des tiers qui la définissent. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes un investisseur particulier, que vous regardez des trucs et que vous portez toute la responsabilité, en fait, vous amplifiez vos biais comportementaux. Là-dessus, j'en retombe sur une méthodologie que j'avais lorsque j'étais le patron de la rédac de Mieux vivre votre argent. Mieux vivre votre argent, il y avait une valeur qui était recommandée par moi qui s'appelait la valeur du mois. Et comment je bossais avec la rédaction boursière? Je leur disais, écoutez, vous venez me voir, vous traitez les dossiers, vous choisissez des valeurs, vous m'en présentez trois, on débat sur ces trois valeurs, on discute d'un point de vue collégial, etc. On en choisit une, vous me donnez l'argumentation et in fine, c'est moi qui fixerai le prix d'achat. Et en pratique, en faisant ça, on répartit, je dirais, la prise de risque. Quand vous avez envie d'acheter une valeur, vous êtes super sûr de votre coup. Vous dites, ouais, c'est génial, je vais en prendre. Donc moi, je suis désolé, je dis la chose suivante. Quand aujourd'hui, on me présente Total, je n'ai rien contre Total, et je pense que Total rentrera dans le portefeuille, je dis, attention, j'ai un problème sur l'équilibre de mon portefeuille.
Bon,
et là, maintenant, je vais répondre à Alice. Pourquoi j'ai un problème sur l'équilibre de mon portefeuille?
On n'a plus le temps.
Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus le temps?
Non. Il faut la perf.
La perf, grosso modo, on est à moins 1 et des poussières sur le mois. Donc, on est en légère sous-performance, alors qu'on était, au record historique le 3 mars. Et donc, il y a un retournement de marché. Et on est en train de mener une analyse très précise de la performance du portefeuille. Parce que, justement, on va prendre une décision qui va être importante. Et je veux pas que ça nous plombe pendant 6 mois.
Merci beaucoup Jean-François Filiatre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour continuer à répondre aux questions d'auditeurs. Dans un instant, c'est 90 minutes business avec Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire du jour.
On va revenir sur la visite de 3 jours d'Emmanuel Macron en Chine. Il a rencontré Xi Jinping. C'est encore en cours. Les premiers contrats tombent. Airbus va doubler sa capacité de production d'avions en Chine. On va en parler avec Jean-Baptiste Huet, avec Agathe Lambray, avec Jean-Marc Daniel. On parlera aussi d'Orpi qui va lancer son pacte anti-inflation pour débloquer le marché de l'immobilier. C'est Marie-Cœur de Roy qui va nous expliquer ça. Et puis notre invité, ce sera François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Un rebond des immatriculations de micro-entreprises ces dernières semaines. On va revenir sur ce phénomène avec lui vers 12h15.
C'est à suivre dans une poignée de secondes. 90 minutes business. Le marché, lui, grignote 0,23%, 7332 points. N'oubliez pas, demain, jour férié en bourse, il n'y aura pas de cotation. Pareil lundi, mais BFM Patrimoine sera quand même au rendez-vous. Vous retrouverez Julie Cohen-Horton demain matin pour un best-of. Moi, je vous retrouverai pour une nouvelle partie de ce best-of lundi matin et en direct mardi. Très bon week-end, Pascal.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.